un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 19 août 2024. Et voici la chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Je voudrais commencer cette chronique par un communiqué de l'agence Média Palestine par rapport à la question des journalistes assassinés à Gaza par l'armée israélienne. 160 journalistes assassinés à Gaza par l'armée israélienne depuis octobre 2023. Et ce communiqué du 9 août 2024, c'est le syndicat des journalistes palestiniens, le SPJ, qui dénonce l'assassinat donc, des journalistes palestiniens Tamim Muammar et Abdullah Al-Soussi par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Les deux hommes ont été tués lors de deux raids distincts à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, ainsi qu'un certain nombre de leurs enfants et membres de leur famille. Qualifiant ces raids de nouveaux crimes de l'occupation visant à liquider les journalistes, le syndicat a appelé le procureur général de la Cour pénale internationale à entamer rapidement des procédures d'enquête sur les crimes de l'occupation contre les journalistes palestiniens. Contacté par l'agence Média Palestine le 12 août, le porte-parole du SPJ confirme que 160 journalistes ont été assassinés depuis le 7 octobre 2023 à Gaza. Ismaïl Haniyeh, président du bureau politique du Hamas, a été assassiné le 31 juillet 2024 au cœur de Téhéran alors qu'il assistait à l'investiture du nouveau président iranien. Bien que le régime israélien n'ait pas encore revendiqué l'opération, cet assassinat ciblé s'inscrit dans une longue série d'assassinats de dirigeants politiques palestiniens par les forces israéliennes. En tant que chef politique, Haniyeh était une figure publique clé du Hamas. Fait important, il était également le principal négociateur du Hamas pour les pourparlers actuels sur le cessez-le-feu, alors qu'Israël poursuit son génocide dans la bande de Gaza. En effet, la présence de Haniyeh au Qatar lui permettait de représenter les Palestiniens au niveau international. Son assassinat montre que le régime israélien n'est pas intéressé de sitôt par un cessez-le-feu. Il soulève également des questions sur l'avenir du Hamas et sa réalité opérationnelle. Dans cette table ronde, les analystes d'Al Sabaka et Belal Sobaki, Tariq Keneh Sawa et Fatih Nimer donnent leur avis sur l'impact de l'assassinat de Haniyeh. Ils réfléchissent à l'avenir du Hamas, à l'impulsion derrière l'opération et à ses conséquences régionales plus larges, en les plaçant dans le contexte historique de la soi-disant diplomatie israélienne. Et donc, on peut lire cette analyse donc, en allant sur le site donc, de l'agence Média Palestine avec les liens qui vous emmèneront directement donc, sur ce colloque qui s'est tenu. Voilà. Donc ça, c'était le point que je voulais évoquer, qui montre à quel point les journalistes payent un très, très lourd tribut dans l'exercice de leur métier pour couvrir ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'est vrai que pour ceux qui perpétuent un génocide, il est mieux d'éloigner les journalistes pour qu'ils ne témoignent pas devant le monde entier. Et cela ne peut qu'aider, finalement, tous les gouvernements qui, de manière plus ou moins affirmés, soutiennent complètement le gouvernement israélien de Netanyahou et donc les exactions commises par l'armée d'Israël à Gaza et dans les territoires occupés. N'oublions pas les territoires occupés où, là aussi, ce sont des zones de non-droit où les colons et l'armée israélienne continuent à détruire, continuent à tuer et continue finalement à un travail pour étendre Israël à l'ensemble du territoire historique de la Palestine, niant l'existence même donc des Palestiniens. C'est bien ce qui caractérise le génocide que nous dénonçons donc depuis maintenant plusieurs mois. Alors, je voudrais maintenant, et cela je change complètement de sujet, je voudrais quand même dire auparavant que pendant tout cet été, tous les samedis en particulier, se sont tenus des rassemblements, des manifestations dans de très nombreuses villes de France et à l'échelle internationale, avec des manifestations parfois extrêmement importantes, des initiatives pour montrer comment la population soutient le peuple palestinien dans sa détermination à avoir finalement le droit d'exister et à mettre en avant, et là je reviens sur ce que dit la libre pensée, il ne saurait y avoir de paix durable que sur la base d'un système d'égalité des droits, de respect mutuel, et que l'ambiance de guerre perpétuelle qui est aujourd'hui ce qui domine dans cette région du monde ne peut mener qu'à de nouvelles victimes, et en particulier victimes civiles. Alors, oui, donc à la libre pensée, nous avons bien sûr des sujets sur lesquels nous intervenons de façon extrêmement fréquente, à commencer par les sujets liés à la laïcité, mais nous nous intéressons à l'ensemble des questions que traverse la société et qui sont soumises parfois à la société. Et dans ce cadre-là, il y a un sujet qui fait un peu la une des médias depuis quelques mois, depuis en fait que ChatGPT a été publié, c'est l'intelligence artificielle. Donc nous avons un article extrêmement intéressant sur cette question de l'intelligence artificielle, qui est un article de Jean-Sébastien Pierre, c'est-à-dire du président de la Fédération nationale de la libre pensée, qui est professeur émérite, je crois, de l'Université de Rennes, et qui s'est exprimé sur cette question de l'intelligence artificielle. Je vous propose donc la lecture de l'article qu'il a écrit à ce sujet et qui est publié dans le dernier numéro de La Raison, c'est-à-dire la revue de la Fédération nationale de la libre pensée, une revue mensuelle. Intelligence artificielle du perceptron au mythe de Prométhée. L'informatique a produit des techniques algorithmiques extrêmement puissantes, regroupées aujourd'hui sous le vocable d'intelligence artificielle ou IA. Il s'agit de programmes capables d'apprendre et, jusqu'à un certain point, de raisonner. Les chercheurs en font un usage considérable, soit pour modéliser des systèmes complexes, reconnaître des images, détecter des formes et des mouvements, soit à des fins de recherche d'informations. Des outils comme ChatGPT sont désormais accessibles au grand public. Et l'IA, l'intelligence artificielle, s'invite même dans le domaine de la création, générant des chansons de variété, des tableaux, des films, des dessins animés d'une qualité telle qu'il faut un œil expert pour en détecter l'origine « machinale », entre guillemets, c'est-à-dire, et c'est dire, la puissance énorme de cette technologie. D'un autre côté, comme toute avancée scientifique, l'intelligence artificielle est un outil puissant pour les régimes totalitaires, pour le pilotage des armes de destruction et aussi pour les malandrins et fraudeurs. Ainsi, le régime chinois utilise la reconnaissance automatique des visages pour mettre sa population sous un contrôle digne du Big Brother d'Orwell dans le livre titré 1984. La police peut, théoriquement, exercer un énorme contrôle politique sur la circulation d'informations sur les réseaux sociaux. Protéger juridiquement la liberté d'expression, de pensée, de manifestation, d'organisation et même la propriété intellectuelle contre le caractère éminemment intrusif de l'intelligence artificielle est un véritable casse-tête, de sorte que la loi, même bien intentionnée, ce qui n'est pas toujours le cas, est systématiquement en retard par rapport à ses progrès. Malgré les apparences magiques, l'intelligence artificielle n'est rien d'autre que de l'informatique et ses balbutiements datent du milieu du siècle dernier. Ce fait est si peu connu qu'il nous a semblé intéressant, dit Jean-Sébastien Pierre, d'en retracer l'histoire. Alan Turing et son test. Alan Turing est un mathématicien génial qui fut le pivot du centre de décryptage de Bletchley Park, près de Londres, pendant la guerre de 1939-1945. On lui doit, c'est bien connu, sa contribution à la construction du premier ordinateur anglais, Colossus, qui permit le craquage du code de la machine Enigma de l'armée allemande. C'est ce qui permit de planifier le débarquement du 6 juin 1944 en pleine connaissance des mouvements de troupes, de flotte et d'aviation allemands. On sait moins que Turing est l'auteur du premier modèle théorique d'ordinateur, la machine de Turing, et ce dès 1936. Bien avant que le premier ordinateur ne fût réellement construit. Chose plus originale, Turing prévoit le développement de l'intelligence artificielle et propose en 1950 un test permettant à un observateur de déterminer s'il dialogue avec un humain ou avec une machine. Disons brièvement qu'aucun système d'intelligence artificielle moderne n'a encore réussi le test de Turing. C'est un défi à relever, il le sera sans doute tôt ou tard. Turing a été bien mal récompensé pour ses services rendus à l'Angleterre. convaincu d'homosexualité à une époque où la chose était considérée comme un délit. Il fut astreint, pour éviter la prison, à un traitement hormonal barbare et primitif que le plongea dans une dépression profonde. Il mit fin à ses jours en 1953 en croquant une pomme empoisonnée. Le logo de la firme Apple est un hommage à sa mémoire. Au passage, signalons que ce n'est qu'en 2013 que la reine Elisabeth le reconnut comme héros de guerre et lui accorda la grâce royale, sic, à titre posthume. 1957, le perceptron. En 1957, Frank Rosenblatt invente un système informatique radicalement nouveau, le perceptron, qui est un réseau de neurones virtuels. Pour la première fois, on s'inspire résolument de ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau de l'homme et des animaux. C'est un modèle très frustre d'un neurone réel. Dans la vraie vie, celui-ci reçoit des informations d'autres neurones par une série de prolongements appelés dendrites et renvoie une réponse vers des neurones récepteurs sous forme de potentiel d'action via un seul prolongement particulier appelé axone. En termes informatiques, les dendrites sont des entrées et l'axone une sortie. Un neurone virtuel est tout simplement une case de mémoire reliée aux cases voisines, capable d'affecter des poids, c'est-à-dire plus ou moins d'importance, aux valeurs qu'elle reçoit, et d'en déduire une valeur de sortie. Dans la formule initiale, cette sortie était limitée à 0 ou 1, sortie binaire. Il était utilisé pour faire de la discrimination. Par exemple, cet homme est-il bien portant ou malade ? Sur les entrées du perceptron, on code les valeurs de divers dosages biologiques et dans une phase dite d'apprentissage supervisé, le programmeur lui indique si la personne est considérée par les experts médicaux comme malade, 1, ou saine, 0. Cette épreuve est répétée un grand nombre de fois sur des sujets dont on connaît la situation. Le perceptron ajuste le poids de chacune de ses entrées pour minimiser son taux d'erreur de classement. Il est alors mûr pour classer des sujets nouveaux dont le statut est inconnu. Ce n'est encore qu'une solution très économique au vieux problème de l'analyse discriminante, bien connu des statisticiens. Comment classer des éléments en groupe en fonction de leurs caractéristiques ? Rosenblatt détaille déjà les applications possibles du perceptron dans un livre paru en 1962. Amélioré en perceptron multicouche, avec deux couches ou plus de neurones virtuels, il dévoile d'autres potentialités. Ses capacités à reconnaître des formes sur des images apparaît vite comme exceptionnelle, mais la dimension limitée des images et des mémoires des ordinateurs des années 60 relègue le perceptron multicouche au second plan, au niveau des curiosités scientifiques. Dans les années 80, un renouveau d'intérêt pour ces réseaux accompagne la progression des capacités des ordinateurs, les systèmes experts. Au cours des années 70 du XXe siècle, apparaissent de nouveaux outils sous le terme d'intelligence artificielle. Ce sont les systèmes experts. Leur principe est totalement différent de celui des réseaux de neurones. Il s'agit d'imiter le raisonnement d'un expert compétent dans le domaine, voire de mettre en boîte des compétences qui risquent d'être perdues parce que reposant sur des individualités vivantes. Les systèmes experts disposent d'un double cœur, une base de connaissances et de règles décisionnelles. Les connaissances sont factuelles et concernent les informations sur le domaine concerné. 2. Un moteur d'inférence qui utilise les règles décisionnelles de la base de connaissances pour déduire de nouvelles informations ou prendre des décisions. Les premières applications des systèmes experts et les plus répandues ont été les aides au diagnostic médical. Les praticiens les ont diversement appréciées. En effet, quoi de pire qu'un expert pour expertiser une expertise ? La plupart du temps, les praticiens n'avaient pas besoin d'aide pour leur diagnostic et lorsqu'ils en avaient besoin, se trouvaient souvent en désaccord avec le système. Les systèmes experts restent cependant utilisés un peu en arrière-plan par rapport aux techniques plus modernes. Ceux qui demeurent en service à l'heure actuelle sont d'ailleurs souvent alimentés par des techniques d'apprentissage profond dont nous parlerons un peu plus loin. Plusieurs causes ont tué les systèmes experts. Ils étaient gourmands en maintenance, il fallait les mettre à jour constamment. Cette maintenance elle-même était rendue difficile par leur structure basée sur des règles de logique formelle assez rigides. Cela diminuait leur capacité à traiter des informations imprécises ou incertaines. En un mot, il manquait de dialectique et aussi de flexibilité. Les adapter à des problèmes nouveaux était long et laborieux. En fait, basé sur des techniques d'inférence du type « si On est en présence simultanée de A et B, il faut faire C. Il ne valait guère mieux qu'un arbre de décision utilisé manuellement. Le retour des réseaux de neurones. À partir des années 1990, les chercheurs procèdent à une réévaluation des réseaux de neurones artificiels. Au premier chef, c'est leur capacité extraordinaire à résoudre des problèmes statistiques de prévision et de régression qui les remet à l'honneur. Ils excellent dans l'analyse d'images sans utiliser vraiment explicitement les outils complexes développés par ailleurs dans ce but. On leur injecte une série d'images dans lesquelles il y a un oiseau, une autre dans lesquelles il n'y en a pas. L'opérateur indique la présence ou non de l'oiseau. C'est une la phase d'apprentissage, dit ici supervisée, comme dans le cas du perceptron. Ils sont alors dits entraînés et capables, sur de nouvelles images, de détecter la présence d'un oiseau. De la même manière, on peut leur apprendre à reconnaître des voix, des visages, des instruments de musique, l'auteur d'une partition musicale et, dans un second temps, de faire dans une certaine mesure œuvre de création. Cependant, tout ceci fonctionne comme dans le bon vieux perceptron, c'est-à-dire par modification des poids, de l'importance quantitative, accordée à leurs données d'entrée. Cela est conjugué à des progrès fulgurants de la technologie informatique. Mise à disposition de mémoires énormes, de supports de stockage, disques durs, clés USB, mémoire dite flash, également énormes, et de processeurs d'une rapidité absolument confondante. Ces capacités de calcul permettent aux réseaux de neurones formels, artificiels, de travailler très rapidement. La technologie de l'intelligence artificielle a généré une grande variété de réseaux de neurones qui sont accessibles et utilisables sous forme de bibliothèques par les chercheurs. La plupart sont multicouches. Un ensemble de neurones reçoit les informations, les traite et les transmet à une couche suivante qui elle-même peut en faire de même ou envoyer ces informations de sortie à l'utilisateur. Ils simulent de micro-cerveaux ou ce que l'on en connaît. D'autres évolutions conduisent au réseau convolutif, CNN, particulièrement adapté au traitement des images. Les réseaux dits récurrents sont spécialisés dans le traitement des données qui se présentent en file indienne, telles que les textes, les langages, les partitions de musique. Les réseaux de neurones adversariaux sont les plus récents et les plus sophistiqués. Ils consistent en deux réseaux antagonistes, l'un appelé générateur, qui crée de nouvelles données qui ressemblent autant que possible à celles qu'il a reçues en entrée. Je connais toutes les symphonies de Beethoven et j'en crée une nouvelle. Le résultat est analysé par le réseau dit discriminateur, qui essaie de classer le résultat Beethoven ou pas Beethoven. Tant que le discriminateur est capable de faire la différence, le générateur tente d'améliorer sa production. C'est ainsi que l'on trouve désormais sur son téléphone des applications capables de générer des chansons de variété. Ce sont aussi de tels réseaux qui vous fabriquent des tableaux de Rembrandt ou de Léonard de Vinci. Il ne s'agit que de faussaires automatisés. Enfin, les réseaux dits auto-encodeurs sont utilisés pour compresser des données. Par exemple, traiter une image de plusieurs gigaoctets pour la réduire à quelques kilooctets sans trop altérer sa qualité, ce qui représente une réduction d'encombrement de l'ordre du million. L'apprentissage profond, le deep learning. Le deep learning, également connu sous le nom donc d'apprentissage profond, est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle qui se concentre sur l'imitation du fonctionnement du cerveau humain pour acquérir des modèles à partir de données. Il est basé sur les réseaux multicouches que nous avons décrits précédemment. Le deep learning est particulièrement efficace pour la reconnaissance de motifs dans des données non structurées ou complexes, telles que des images, des sons et du texte. Il est utilisé par beaucoup d'applications, notamment la vision par ordinateur, la reconnaissance vocale, la traduction automatique, la classification de documents, la recommandation de contenu et bien d'autres. Fils de l'informatique moderne, le deep learning nécessite souvent des quantités massives de données d'entraînement et de grandes puissances de calcul pour obtenir des résultats optimaux, d'autant qu'on lui demande de répondre vite. Les algorithmes de l'intelligence artificielle sont-ils intelligents ? Tout dépend de ce que l'on appelle l'intelligence. Pour les informaticiens, cela recouvre les capacités de raisonnement, de déduction, d'analyse, de discrimination et, de manière pour l'instant très limitée, de création. Les systèmes sont dits intelligents lorsqu'ils ont des capacités propres d'apprentissage, de flexibilité et d'une certaine autonomie. Pour les psychologues et les neurobiologistes, la notion d'intelligence est sans doute tout autre chose. Si les systèmes d'intelligence artificielle sont pour l'instant incapables de passer le test de Turing, c'est parce que, développés et fabriqués comme de bons robots, ils ne se troublent pas, ne s'énervent pas, ne sombrent pas dans la névrose comme le mythique Carl, l'ordinateur du film 2001, l'Odyssée de l'espace. En bref, ils sont encore trop bêtement logiques pour tromper un expert averti. Cependant, tout peut se simuler. Un réseau de neurones ne peut pas se mettre en colère, mais peut faire semblant si on lui apprend à le faire à bon escient. Il se trouve que ce n'est pas vraiment le but commun de ceux qui les fabriquent. L'avenir nous dira si les robots peuvent apparaître humains ou pas, et jusqu'à quel point. Intelligence artificielle et neurobiologie. Les potentialités des réseaux de neurones artificiels interpellent les neurobiologistes. Les applications lourdes, comme ChatGPT, approchent les dimensions du cerveau humain, environ 100 milliards de neurones. Mais ce grand nombre est essentiellement utilisé pour coder des connaissances, c'est-à-dire de la mémoire, et entretiennent un nombre très inférieur de connexions. Dans les réseaux bien plus petits de quelques centaines de neurones, CIFIS a simulé la plupart des raisonnements et des calculs statistiques. Le cerveau des mammifères semble surdimensionné, surtout si on le compare à celui des oiseaux considérés comme les plus intelligents, ménates, psittacidés, pardon, qui se contentent de quelques centaines de milliers de neurones, soit 1 million de fois moins que les mammifères, et montrent des performances cognitives du même ordre que les chiens ou les grands singes. Les poulpes, capables de résoudre des problèmes étonnants, se contentent de 500 millions de neurones, soit 1000 fois moins que les humains, de 500 millions de neurones, soit 1000 fois moins que les humains et les grands primates. D'un point de vue théorique, la technologie des réseaux de neurones est aussi un outil pour étudier les systèmes complexes. Quelle taille doit avoir un réseau pour résoudre tel ou tel problème? Comment évoluent les poids des entrées en son sein et pourquoi? Ce domaine de la recherche est actuellement en pleine ébullition. Et l'éthique? Faut-il punir Prométhée pour avoir dérobé le feu aux dieux? Les systèmes d'intelligence artificielle sont des outils extrêmement utiles à toutes sortes de chercheurs et pénètrent le grand public sous forme d'applications. Toute invention peut conduire au meilleur comme au pire, nous l'avons dit en introduction. Entre les mains des escrocs, des militaires, de gouvernements tyranniques, les techniques de l'intelligence artificielle deviennent des outils de fraude, de destruction, de tyrannie, de fichage et d'aliénation, éventuellement d'abrutissement. Le système capitaliste ne peut qu'en faire un usage immodéré. La résistance des citoyens pour défendre leur liberté n'en est que plus essentielle et éventuellement plus difficile car le totalitarisme engendré par cette technique peut se parer de couleurs chatoyantes et séduisantes. Créer un nouveau besoin pour vendre un nouveau produit est une technique de base de l'offre capitaliste. Et pourtant, il est possible d'utiliser l'intelligence artificielle intelligemment, de lui faire dire des sottises, de s'en servir stupidement. L'homme est responsable de ce qu'il crée sous le nom d'intelligence. Voilà, donc ça m'a semblé intéressant de vous faire part de cette analyse de Jean-Sébastien Pierre sur ce sujet qui est souvent traité dans les médias de l'intelligence artificielle. Alors, je vous propose maintenant d'en venir au choix musical que j'ai retenu pour cette chronique. C'est une chanson qui concerne la question du journalisme, justement, à l'heure d'Internet. Nous écoutons donc Pierre Dot.
Je travaille au front d'une rédaction, je rentre du terrain, je passe à l'action. Encore une tête que je coupe, demain matin, il y aura du scoop. Comment ? L'info est déjà sortie sur un site gratuit. Mon sujet est retiré, au mieux retoqué, je vais devoir tout réangler. Ce genre d'info pour les locaux, c'était à nous. À l'époque où de petites pastilles oranges poussaient sur toutes les boîtes aux lettres, fallait qu'un pesticide étrange refile tout gratos sur Internet. Depuis, les choses ont bien changé. L'angoisse de la page blanche s'est dépassée. Maintenant, c'est celle de l'info passée qui fait que le papier bah c'est pas le pied pour le flux d'actualité. Je travaille au fond d'une rédaction, gens du terrain, je passe à l'action. Après une brève, la vidéo que je dois poster sur les réseaux. Et puis, faudra tout réécrire, réussir à faire lire tous ces jeunes qui ne lisent plus, c'est bien connu. Pourquoi j'ai choisi presse écrite, maintenant que tout va si vite? C'était plus doux à l'époque où... De petites pastilles oranges poussaient sur toutes les boîtes aux lettres. Fallait qu'un pesticide étrange refile tout gratos sur Internet. Depuis, les choses ont bien changé. L'angoisse de la page blanche s'est dépassée. Maintenant, c'est celle de l'info passée qui fait que le papier, ben, c'est pas le pied pour le flux d'actualité. Maintenant les choses ont bien changé, l'angoisse de la page blanche s'est dépassée. Maintenant c'est celle de l'info passée qui fait que le papier, ben c'est pas le pied, mais vive la liberté.
Voilà, donc vous avez peut-être remarqué que cette chanson permet de faire le lien entre les deux sujets que j'ai traités. C'est tout d'abord, je pense, un hommage pour les journalistes qui aujourd'hui font un métier très difficile et très risqué, en particulier ceux qui couvrent donc la situation à Gaza et dans les territoires occupés, et qui donc pour 160 d'entre eux au moins, comme l'indiquait le communiqué de l'agence Média Palestine que j'ai cité en début de chronique, ont laissé leur vie donc sous les balles et les bombardements israéliens à Gaza. Et donc, c'est également un peu un écho au texte de Jean-Sébastien Pierre que j'ai lu là, sur la question de l'intelligence artificielle, dont on sait les craintes qu'elles font peser sur le travail de journalisme. Et là encore, le lien avec Gaza est évident, c'est-à-dire qu'à Gaza, hein, c'est pas l'Internet, ce sont les journalistes de terrain qui prennent les risques que j'indiquais là, pour leur vie et qui permettent d'avoir ces informations que reprennent aujourd'hui les militants et tous ceux qui veulent que le peuple palestinien puisse jouir de ses droits imprescriptibles et que dans cette région du monde, on puisse contribuer à établir la paix qui ne peut reposer donc que sur l'égalité des droits. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour cette chronique donc de ce lundi 19 août. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du groupe Frézeler. Merci à Antoine qui, au pupitre du studio de RLP, a assuré la technique de cette chronique diffusée en direct sur RLP. À lundi prochain. Bonne semaine.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.